Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim, notre globetrotteur, Stéphanie Colo, notre bibliothécaire. Ils nous feront voyager dans le monde et dans le temps. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Des invités aujourd'hui qui vont nous éclairer sur ce qui est peut-être la plus grande tragédie économique qui ait frappé la France au cours des 40 dernières années, la désindustrialisation. Aucun pays occidental ne s'est davantage vidé de sa substance industrielle que la France depuis la fin des années 70. Alors pourquoi ? À qui la faute ? La France peut-elle redevenir une grande puissance industrielle ? Comment ? En comptant sur quelle force ? Réponse donc avec nos deux invités. Nicolas Dufourcq, bonjour.
Bonjour.
Nicolas, vous êtes le directeur général de la BPI, la Banque publique d'investissement, et vous publiez La désindustrialisation de la France, 1995-2015, aux éditions Odile Jacob. Valérie Alas-Louquetas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante, directrice d'un cabinet de coaching qui s'appelle YouCan, et vous publiez avec notre excellent confrère journaliste Rémi Dessart, Les audacieux chronique d'un territoire qui refuse le déclin chez Calman Lévy. Ce territoire, c'est les Ardennes. Et on va aller voir sur le terrain comment ça se passe justement pour essayer de revivifier notre tissu économique. Je commence avec vous, Nicolas Dufourcq. Juste pour bien se fixer les idées, l'ampleur de la désindustrialisation. Est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur ?
On a perdu un tiers des emplois et un peu plus de 40% des usines.
D'accord. Tout ça en quoi ?
Tout ça dans les 20 ans en question. Hein.
Alors vous êtes même moins large que moi, c'est-à-dire que vous dites 95, ouais. 2015. C'est-à-dire...
Oui, en fait, c'est une histoire de la désindustrialisation dans ce qu'elle a de typiquement français.
Ouais.
Évidemment, à la fin des années 80 et au début des années 90, toute l'Europe a été partiellement désindustrialisée sur l'acier, les charbonnages. Tout le monde a connu ces crises-là. Le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, la Sarre ont connu les mêmes crises. Hein, et tout le monde a eu son Manu France, grosso modo. Sauf que dans un certain nombre de pays, ça s'est arrêté là.
Ouais. Et alors pourquoi chez nous, l'hémorragie ne s'est pas arrêtée ?
Alors c'est ce que j'explique dans le livre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un choix sociétal très complexe, très difficile à analyser sur le moment, une espèce de brume qui rendait la lecture de la bataille difficile, mais une fois que la brume est dissipée, ce qu'on constate, c'est que tout le monde a conspiré à la disparition progressive de l'industrie française.
Alors, en gros, ce que vous dites, c'est que tout le monde a sur les mains le sang de la désindustrialisation, quoi.
Oui, j'utilise le mot d'empreinte digitale.
Oui, c'est vrai.
C'est moins guignolant.
Oui, mais vous êtes plus modéré, évidemment, qu'un journaliste. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, c'est vraiment la faute à tout le monde.
À tout le monde.
Hein? Alors, on commence par, je sais pas, les pouvoirs publics, par exemple.
Oui.
En fait, on se rend compte que tous les choix qui ont été faits ont toujours été défavorables aux entreprises.
Oui.
Tous les choix de politique économique qui ont été faits.
Oui. Pratiquement tous. Il y a une exception qui est 2003, la loi Dutreil, qui sauve littéralement l'industrie familiale française des territoires. Hein. Puisqu'il faut se souvenir que l'ISF avait été déplafonné par Juppé en 95. Donc entre 95 et 2003, c'est l'hécatombe des entreprises familiales. D'accord. Donc ça, la loi Dutreil, fondamentale. Vous avez ensuite quelques petites amorces de banques publiques. Hein, il y avait le CEPME qui devient OSEO en 2005, mais c'est tout petit. Ouais. Les moyens sont dérisoires. Le financement de l'innovation des PME à l'échelle du financement de l'innovation des grands groupes français, Colbertis, dérisoire.
Mais tout ça n'est rien à l'échelle des alourdissements successifs de fiscalité,
exactement,
de rigidification,
absolument,
du marché travail.
Et dans les pouvoirs publics, il faut que vous mettiez le paritarisme.
Ouais.
Paritarisme, c'est quoi, hein? C'est la gestion, la co-gestion par le patronat et les syndicats de salariés des régimes complémentaires de retraite et de l'UNEDIC. Ils n'ont pas cessé d'augmenter les cotisations. L'État, lui, a été plutôt discipliné. À partir de 2002-2003, c'est terminé. Il n'y a plus d'augmentation de cotisation du régime général de sécurité sociale. En revanche, les régimes paritaires explosent. Ouais.
Alors vous dites aussi, les entrepreneurs, ils ont leur part de responsabilité.
Les entrepreneurs, alors, bah évidemment. C'est-à-dire les entrepreneurs, alors ça c'est quelque chose qui était peu senti à Paris, parce que le Paris de l'époque, la France a changé, heureusement. La France aujourd'hui est beaucoup plus répartie sur le territoire, pour politique des régions beaucoup plus
importante. Mais l'industrie, elle a toujours été répartie sur le territoire.
Oui, mais pas la politique. Pas la politique et pas la classe dirigeante française, on va se le dire comme ça. Hein. Aujourd'hui, vous allez en province, les métropoles sont absolument rutilantes. Vous avez des écoles partout, d'ingénieurs, de commerce, etc. La province française, ça n'est plus du tout la province de l'époque. À l'époque, elle existait, mais elle n'était absolument pas incarnée à Paris, ailleurs qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, le vieillissement du tissu de patrons de PME, les gens le voyaient pas. La direction générale de l'industrie le voyait pas, puisqu'elle s'en occupait pas du tout. Elle s'occupait que des grands groupes. Hein. Et cette réalité sociétale, sociologique, ne remontait pas. Il y a Madeleine dit dans son entretien, j'ai été stupéfait quand je suis arrivé comme ministre, de voir que se pressaient à mes côtés un certain nombre de patrons qui étaient vieillissants, habitués à la subvention, qui n'innovaient plus, etc. Il y a deux interviews d'entrepreneurs qui n'ont pas ni 60 ans ni 70 ans, mais qui ont plutôt 55 ans ou 50 ans. C'est Bruno Bouygues de Gis et c'est Pascal Turquetil de Muller, qui tous les deux sont de ma génération, on va dire, hein, et qui racontent ce dont ils ont hérité.
Ce que vous dites aussi,
cette entreprise qui s'était pas adaptée.
Cette forme de déni ou de non prise de conscience, la presse typiquement en est victime aussi. C'est-à-dire que il y a qu'au milieu des années finalement 2000 que les cris de détresse des PME vont commencer à monter aux oreilles des journalistes.
Alors il y a toute une partie de la France qui dit les patrons râlent tout le temps.
Ouais.
Les patrons, ça râle. Un patron, ça râle. Donc, si le patron râle, c'est même pas la peine de l'écouter. Jusqu'à ce qu'ils s'y mettent à hurler, littéralement, en disant « je meurs ». Bon, alors là, on commence à ouvrir un tout petit peu les oreilles. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est... Alors, parce qu'il ne s'agit pas de donner des leçons non plus. Ce qui s'est passé entre 95 et 2002, en fait, c'est-à-dire la mise en œuvre des 35 heures, était totalement imprévisible. C'est-à-dire que ça n'était jamais arrivé dans l'histoire économique. Et donc, c'est difficile de demander à ces gens-là, y compris d'ailleurs à tous les experts, patrons d'entreprises, syndicalistes, fonctionnaires qui étaient autour de la commission Minc en 94, d'anticiper la désindustrialisation.
À la fin, quand même, enfin, le premier choc pétrolier, quand même, il est géré de façon aussi à ce qu'il soit supporté totalement par les entreprises. On a vu après, dans les années 80, comment ça avait déjà abîmé notre tissu économique quand on a voulu faire la relance en 81 et qu'on voyait qu'il n'y avait pas une entreprise qui était capable de répondre aux besoins des Français.
Absolument. On va dire le sextuple choc dans lequel vous avez, ça se termine par les 35 heures, hein, mais vous avez l'entrée de la Chine dans l'OMC, vous avez le GATT, les accords du GATT, vous avez l'acte unique, vous avez la dernière version des accords multifibres, hein, vous avez le déplafonnement de l'ISF, vous avez l'augmentation des cotisations, je dis sextuple, c'est plus que ça, l'augmentation des, vous avez la fin, vous avez l'augmentation des taux d'intérêt du fait de l'indépendance de la Banque de France. Vous avez tout ça en même temps.
Alors, vous dites les grandes entreprises aussi sont responsables. Alors d'un côté, vous comprenez que finalement, avec tous les boulets qu'on leur a accrochés aux pieds en France, elles aient envie d'aller les voir ailleurs.
Oui.
Mais en même temps, bon, vous dites que sans trop d'état d'âme, elles se sont quand même débarrassées de leur site en France.
Oui, absolument.
Elles auraient pu faire un peu plus d'œuvres de patriotisme.
Donc là aussi, il faut pas toutes les mêmes dans le même sac. Vous en avez qui ont essayé de garder des sites, beaucoup de sites, qui ont été plus ou moins vertueuses. On connaît la différence entre PSA et qui a été tout à fait vertueux jusqu'en 2006 et Renault. Il y a l'exemple de Seb, Thierry Latour d'Arthez, qui a gardé 14 usines en France, alors que Moulinex avait fait faillite. Donc certaines ont fait plus que d'autres. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu, à la fin des années 90 et au début des années 2000, un moment mondialiste pur, où la place de Paris, où étaient tous les dirigeants, y compris d'ailleurs des dirigeants qui avaient eu leur enfance en province, qui étaient dans des lycées de province, mais qui étaient montés à Paris pour leurs études, mais qui étaient devenus des dirigeants mondialisés. Il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que tout cet écosystème, cette opinion publique dirigeante, a été radicalement contaminé par l'idéologie...
La Commission européenne aussi.
la Commission européenne qui était à l'époque totalement dominée par les Britanniques.
Ouais.
Aujourd'hui, elle l'est par les Allemands. À l'époque, c'était par les Britanniques. Et donc, totalement contaminée par une idéologie atlantique qui est la même qui a désindustrialisé les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais cette idéologie atlantique-là qui était représentée par les cabinets de conseil, les banques d'affaires, les avocats, les analystes financiers dans les roadshows, puisque toutes ces boîtes étaient nouvellement cotées, traversaient le monde entier pour aller présenter leurs résultats. L'Allemagne y a échappé. Elle y a échappé parce que les centres de pouvoir étaient totalement diffus dans le territoire. Et donc, pour un cabinet de conseil mondialisant anglo-saxe, aller à Nuremberg, aller à Karlsruhe, ouais, aller à Dortmund...
Alors, vous montrez, effectivement, dans le livre, vous montrez les efforts, en fait, qu'ont su faire les Allemands, les entreprises, les salariés, pour remettre leur pays sur la voie du succès industriel. Mmh. Mais j'ai envie de vous dire, c'est une stratégie un peu individualiste, celle de l'Allemagne. Elle ne peut marcher que si les autres font... Pas la même chose.
Oui.
C'est un peu une stratégie solo, vous voyez.
Non, mais ça a très clairement été une stratégie solo. Ils l'ont pas perçu comme telle. Ils ont considéré qu'ils avaient vécu un choc historique qui légitimait tous leurs efforts. C'est-à-dire qu'ils ont vécu la réunification. La réunification, ils ont été un nouveau pays. Ce pays, il était à la fois détruit par son passé et par le choix d'Helmut Kohl de faire un Ostmark pour un Deutschmark. Et donc, il fallait transférer 1000 milliards de Deutschmark vers l'Allemagne de l'Est pour la reconstruire et l'absorber. Et donc, toute l'Allemagne a considéré qu'elle avait une sorte de devoir collectif moral, j'appelle ça la réforme intellectuelle et morale, comme la France après 1870, de reconstruction, ouais, donc d'effort. Les Allemands ont accepté l'effort.
Alors justement, toute l'Allemagne, vous dites, y compris les Allemands et les ouvriers, et en fait, dans votre livre, vous êtes assez dur, même avec les ouvriers français, vous dites finalement, même les ouvriers en France n'ont pas défendu leur industrie.
Mais oui, vous vous souvenez de grandes fédérations ouvriéristes défendant la mystique de l'industrie ? La mystique de l'usine, si je puis dire. Quand je dis la mystique, c'est celle de Saint-Simon, hein. Comme c'était le cas beaucoup, beaucoup plus tôt dans l'histoire de France. La beauté de l'industrie, la beauté du produit.
Mais est-ce qu'il faut...
L'ouvrier de base, oui. Celui que vos caméras interviewaient en disant quand même, regardez ma cathédrale.
Ouais.
Mais les fédérations, pas du tout.
Est-ce que c'est important de réindustrialiser aujourd'hui ?
Oui, c'est très important de réindustrialiser.
Pourquoi ?
Pas forcément pour l'emploi, parce que de toute façon, ça sera fondamentalement automatisé. Mais parce que d'abord, vous n'avez pas d'équilibre du commerce extérieur sans industrie. Or, il faut un équilibre du commerce extérieur, c'est fondamental. Un pays finit par déprimer d'être sans arrêt, sauf à ce que vous soyez les États-Unis avec 17 porte-avions et la monnaie mondiale. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 100 milliards de déficit commercial par an. Vous ne pouvez pas vous respecter vous-même si vous avez tous les ans entre 17 et 20 milliards de déficit commercial avec l'Allemagne, votre propre voisin à 3 heures de train. Les années passent, un quinquennat.
Et est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est possible ?
Oui, c'est pas possible dans des proportions considérables. Ce qu'on a, aujourd'hui, on est à 10, 11% selon la même. Bon, je pense qu'on peut remonter de quelques points de PIB, peut-être jusqu'à 15 en faisant de gros efforts. Il faut d'abord qu'il y ait une coordination européenne. C'est-à-dire que quand l'Allemagne dit qu'elle veut monter de 20 à 25% de son PIB, ça ne peut se faire que si elle désindustrialise toute l'Europe. Donc ça, quand l'Allemagne publie, vous avez tout à fait raison Jean-Michel, quand Altmaier publie son document de stratégie industrielle, c'était en 2019, disant je passe de 20 à 25, il se pose pas la question.
Ah oui.
Ça c'est d'un égoïsme total. Donc l'Allemagne à 20%, c'est déjà bien. Également, il est vrai que quand il s'agit d'installer des gigafactories, qui sont une des solutions majeures pour réindustrialiser quand même les différents pays, l'Allemagne ne peut pas tout prendre. Or elle prend quasi tout. On est bien d'accord. Mais ça, c'est des combats qu'il faut livrer. La France les livre.
Ben justement, Nicolas Dufour, on va aller sur le terrain voir ceux qui livrent les combats avec vous, Valérie Alas-Louquettaz. Donc, avec Rémi Dessart, vous êtes parti dans les Ardennes et vous racontez finalement comment ce territoire se bat. Alors, c'est quoi le début de l'histoire, en fait ?
L'histoire a deux débuts. Un premier, il y a une quinzaine d'années, avec Rémi Dessart, on avait déjà eu l'occasion de travailler sur la thématique des Français des régions périphériques, sous un autre angle, dans un autre cadre. Et ce sujet nous a longtemps hantés, et ça a été des sujets de discussion commune entre Rémi et moi pendant très longtemps. Et on a beaucoup échangé dans le courant de l'année 2018, et notamment en octobre 2018, je ne sais pas à quelle... période, vous voyez que je fais référence, en se disant que là, des choses très graves étaient en train de se produire et qu'en fait, la marmite était en train de bouillir. Et à ce moment-là, on s'est dit vraiment, cette dichotomie, ce gouffre qui existe entre la France...
Des territoires.
Ouais. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les décisionnaires politiques qui sont à Paris... on sentait bien que le gouffre était en train d'apparaître très clairement et de se révéler. Et donc ça a été le début de notre enquête.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, enfin, l'autre point de départ du livre, j'ai envie de dire, c'est les élections municipales de 2014.
Oui.
Et là, il y a deux maires. Hein. Il y a un maire à Charleville-Mézières, Boris Ravignon, qui est UMP, plutôt de droite, et Didier Hervillon, socialiste à Sedan. Et là, ils se disent tous les deux, il faut qu'on bosse ensemble.
Oui. En fait, ça a été. Ces deux maires ont été parmi nos premières rencontres quand on a commencé à faire notre enquête de terrain dans les Ardennes. Il se trouve que nous avions pris rendez-vous avec Boris Ravignon, entre autres. Le même jour même, nous avions rendez-vous avec le président de la CCI. Enfin, on faisait le tour de différents acteurs des Ardennes. Et quand nous rentrons dans le bureau de Boris Ravignon, nous découvrons une autre personne, en la personne de Didier Billon, donc le maire de Sedan. Et les deux donc, nous disent, et comme vous le soulignez, tous les deux sont de bords politiques différents, et ils ont souhaité nous recevoir ensemble parce qu'ils avaient engagé depuis quelques années des combats communs, donc se battre pour leur territoire, au mépris des étiquettes politiques et pour sincèrement faire levier, en fait, notamment au sein de la communauté d'agglomération. Alors, des Ardennes et lancer des projets ensemble.
On parle de désindustrialisation, ils se retrouvent confrontés à quelques dossiers vraiment très très compliqués, très chauds. Mm-hmm. Alors il y a des dossiers sur l'urbanisme, il y a des dossiers sur l'hôpital, et puis il y a un cas emblématique et que vous détaillez beaucoup dans le livre, hein, c'est la société Tomé Géno, qui est une espèce de saga, une succession terrible d'espoir et de désillusions. Vous pouvez nous résumer rapidement l'histoire.
Alors les ateliers Tomé Géno, aucun des deux maires dont nous parlons, dont nous parlions à l'instant, n'ont eu affaire à cette histoire, mais l'affaire Tomé Géno, c'est une blessure profonde dans les Ardennes. C'est-à-dire que parmi plein d'entreprises qui ont disparu dans les Ardennes depuis les années 70, 80, 90, des très, très grandes entreprises du secteur de l'industrie ou du textile, les ateliers Tomé Géno représentent l'un des cas les plus dramatiques. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise du secteur de la métallurgie qui, encore au début des années 2000, était leader de son marché au niveau mondial. Ils avaient 20% de part de marché sur notamment une pièce qui s'appelle le pôle d'alternateur, qui est une pièce très technologique. Et l'entreprise avait développé un savoir-faire qui était reconnu mondialement. Ils avaient comme client Valeo. Valeo leur avait demandé au milieu des années 90 de devenir leur seul fournisseur de cette pièce. Ils travaillaient à l'époque avec des Japonais et des Français. Mmh. Ils ont abandonné leur partenaire japonais pour se sourcer uniquement auprès des Français de Tomé Géno. Donc une entreprise qui est littéralement nichée dans la vallée de la Meuse, qui est une vallée complètement engorgée dans le nord des Ardennes. Et voilà, cette entreprise, elle avait une position...
Et c'est la descente aux enfers,
oui,
quand même.
C'est la descente aux enfers pour toute une série de raisons. Ouais. Alors, certaines sont propres à l'histoire de Tomé Géno, d'autres sont emblématiques des thématiques et des problématiques liées à la mondialisation, aux enjeux aussi des entreprises familiales, puisque Tomé Géno, c'est une entreprise familiale qui a été transmise de génération à génération qui n'a pas pu ou n'a pas su, pour différentes raisons, mais qui sont intéressantes d'ailleurs à analyser, qui n'a pas su faire entrer des partenaires financiers et industriel pour permettre de financer l'accroissement de la production, pouvoir ouvrir de nouvelles lignes de production. Et voilà, donc ça c'est un des aspects de l'histoire, c'est pas la seule. Il se trouve que les ateliers Tomé Géno et l'entreprise a rencontré...
Mais c'est caractéristique quand même, c'est emblématique de cette spirale du déclin qui a vécu cette région.
Oui.
Et donc, tous ces nouveaux acteurs là sur le terrain, comment est-ce qu'ils partent à la reconquête finalement de leur territoire ?
Eh bien, je pense qu'ils ont décidé de ne plus s'apitoyer sur leur sort et de prendre chacun des dossiers pour reconstituer les différents pans de l'économie et de la société ardennaise. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, ils se sont battus, par exemple, pour sauver un service hospitalier à Sedan, qui était censé fermer. Ils se sont battus également pour mettre en place un campus à Charleville-Mézières, et ça rejoint d'ailleurs le propos que vous teniez tout à l'heure sur l'existence sur les territoires de formation, d'école, etc. Ils ont donc créé ce campus France pour en fait jouer sur les savoir-faire des Ardennes, notamment les savoir-faire en matière de matériaux, en termes d'industrie, et ils ont contribué à la création d'une école d'ingénieurs à l'intérieur de ce campus, alors, aux côtés d'un IUT, etc. Pour redévelopper, oui.
Vous tirez cette leçon à la fin. Oui. Et je dis ça maintenant parce que il y en a une qui me frappe, et Nicolas n'a pas dit autre chose. Dans ces sept leçons, il y a ne comptez pas sur Paris.
Oui. Oui.
Et parce qu'on a l'impression qu'en fait, toutes les sollicitations vis-à-vis de Paris, c'est des freins finalement plus que des soutiens.
Disons que ce que nous constatons au travers de ces récits que nous avons recueillis, c'est que en fait, l'action, l'initiative, elle ne peut venir que des acteurs réels, dans le monde réel, sur les territoires, qui connaissent le territoire, qui connaissent les besoins, qui connaissent les difficultés, et l'initiative, elle doit être prise au niveau local. Et dans un deuxième temps, effectivement, on peut avoir recours à Paris, au pouvoir public, pour accompagner des projets. Mais là, on a rencontré des acteurs qui nous démontrent qu'en fait, il faut commencer par s'aider soi-même avant de demander...
Alors, c'est ce que vous dites, miser sur la solidarité, mobiliser la diaspora aussi, c'est-à-dire...
Oui. En fait, il y a une forte identité ardennaise, ouais. Mais comme je pense, il y a une forte identité dans plein de régions. Voilà. Et cette identité, elle crée des liens. D'abord, un attachement profond. Les Ardennes, il faut le savoir, c'est quand même on les connaît très peu. C'est un très beau territoire, avec du patrimoine incroyable. À Sedan, c'est quand même le plus grand château fort d'Europe. Mais personne ne le sait. À Charleville-Mézières, il y a la place ducale, sur laquelle est installée la mairie, qui est la compicoforme de la place des Vosges à Paris. Pour cause, c'est le même architecte.
D'accord.
Ou son cousin, je crois. Donc il y a une identité ardennaise et donc il y a une envie en fait de contribuer. Donc les Ardennais ont quitté les Ardennes parce que plus d'emploi, ouais. Parce que pas d'établissement de formation supérieure. Donc tous ceux qui veulent faire des études après le bac quittent les Ardennes. Et quittent les Ardennes parfois pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, mais tout en restant profondément attachés à leur territoire.
Alors vous racontez très bien dans le livre hein, cette spirale du déclin. Est-ce que aujourd'hui on peut considérer qu'il y a un cercle vertueux qui s'est réamorcé?
Disons que ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a des acteurs qui se bougent considérablement sur plein de plans. Ouais. Le plan touristique, sur le plan culturel, par exemple, avec depuis une quinzaine d'années la création et le développement d'un festival de musique actuelle qui s'appelle le Cabaret Vert, qui, on ne le sait pas, est l'un des 10 plus gros festivals de musique en France.
Ah ouais.
Mais on connaît les Vieilles Charrues, ouais. On connaît les Francopholies, on ne connaît pas le Cabaret Vert. Donc il y a plein d'initiatives qui sont mises en place. Alors, on ne peut pas prédire l'avenir, mais c'est certain que c'est ce chemin qu'il faut prendre pour redresser un territoire et pour y réimplanter une économie, pourquoi pas une industrie, des services, services touristiques aussi, en l'occurrence dans les Ardennes, par exemple, et pour recréer des emplois et pour maintenir la population. Parce que les Ardennes viennent de loin, c'est l'un des deux départements de France les plus pauvres, avec l'Ariège.
Nicolas Dufour, cette expérience ardennaise?
Ah, tout à fait. Un point qui est très important dans ce que vous avez dit, hein, c'est la différence entre les territoires qui ont des élus entrepreneurs, on va dire, entrepreneurs de leur vie, mais des créatifs, qui sont dans le désir de faire des choses, qui sont audacieux, innovants, etc., et des territoires, malheureusement, qui n'ont pas la chance d'avoir ce genre d'élus. Mmh. Et c'est très frappant dans les années 2000 de voir la différence entre les deux. Prenez Vitré. Vitré, quand même très enclavé, il n'y a pas du tout le TGV à l'époque, etc. Pierre Méhaignery a fait un travail incroyable. Vitré est une place forte industrielle. Vous prenez toute la Mayenne, vous prenez la Vendée, c'est des territoires qui ont totalement traversé la période de désindustrialisation, positivement. Si la France était une grande Vendée, uniquement une grande Vendée, elle serait un pays qui se compare tout à fait à modulo les différentiels de population, mais à l'Allemagne. Hein, absolument. En revanche, vous avez d'autres territoires, d'ailleurs entre les Ardennes et Rodez, hein, toute cette transversale là, qui ont été malheureusement, et c'est pas un problème d'argent public, parce qu'il y a eu progressivement de plus en plus d'argent public pour pouvoir refaire des métropoles régionales, recréer des universités, faire les pôles de compétitivité, les écoles, etc., etc. Il faut
merci
des gens.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, Nicolas Dufourc, La désindustrialisation de la France chez Odile Jacob, Valérie Alasculeta. Je reprends Alas Lucetas, pardon, et Rémi Dessart, Les audacieux chroniques d'un territoire qui refuse le déclin, les Ardennes, chez Calman Lévy. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim qui nous fera découvrir encore les études qu'il a récoltées dans le monde entier. Et puis Stéphanie Collo, notre bibliothécaire qui nous ramènera au XVIIe siècle. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School. Voilà, et puis critique attitrée aussi de l'éminente Société d'économie politique. Tiens, on commence avec votre choix. Jean-Marc, Irène Grenet qui publie chez Odile Jacob La publicité dans le Nouveau Monde.
Plus exactement, La publicité dans le monde nouveau. Mais en fait, c'est à peu près la même chose. Et alors, le monde nouveau, c'est le monde dans lequel nous entrons. Et donc, Irène Grenet, en deux mots qui est, elle a fait l'école normale supérieure, l'ENA, et puis ensuite, elle fait une carrière dans l'administration. Et elle a été, à un moment donné, responsable de la régie publicitaire d'une grande chaîne de télévision. Et elle tient à... de son expérience, elle tire une sorte de leçon sur ce qu'est la publicité. Alors son livre est en trois parties. Une première partie, elle rappelle ce qu'était la publicité, la réclame, comme on disait autrefois, et elle dit que en fait le rôle de la réclame, de la publicité, c'était de faire rêver les gens. Et derrière ce rêve, il y avait la prise de conscience de l'existence des entreprises. Le rôle de la publicité, c'était de faire connaître les entreprises. Alors elle vendait du rêve. Après, elle vendait des produits qui n'étaient pas forcément immédiatement ceux qui étaient dans la publicité. Mais enfin, il y avait une sorte de lien qui se faisait au travers de ce rêve. Et puis ensuite, elle dit, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, les nouveaux réseaux, les réseaux sociaux, la publicité a changé de rôle. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se mêlent de faire connaître les entreprises. Elle parle en particulier des influenceurs. Autrefois, il y avait au 19e siècle, il y avait des critiques comme nous. On faisait indirectement de la publicité pour des livres, mais ça restait sur des secteurs un peu ciblés. Là, maintenant, tout le monde peut être soumis à la critique d'un réseau social, d'un influenceur. Et ensuite, dit-elle, les gens qui font de la publicité, qui vont se porter vers le consommateur, connaissent de mieux en mieux le consommateur. Autrefois, c'était l'usager du métro qui regardait les panneaux pendant le parcours. Maintenant, on est sur Internet et les gens qui sont en contact avec vous savent qui vous êtes et savent quel est votre profil, savent quelles sont vos consultations et donc vont essayer de mettre de la publicité plus axée sur vous. Et donc, elle dit, la publicité est en train de changer parce qu'elle change d'une logique où elle était véritablement axée sur le producteur vers une logique où elle est axée sur le consommateur. Alors, le livre est intelligent, bien construit. Je lui ferai quand même une remarque un peu désobligeante, c'est que je trouve le livre très scolaire. C'est-à-dire, elle est ancienne élève de l'école normale supérieure, j'avais l'impression qu'elle repassait le concours. Donc j'ai envie de lui dire, rassurez-vous, vous avez été reçu.
Détendez-vous,
tout va bien se passer, madame, qui me dirait certains. Et donc je pense qu'elle aurait pu faire un effort un peu d'avoir un style un peu plus... Oui. Un peu moins compassé, un peu moins scolaire, un peu moins universitaire, et avec un peu plus d'exemples, un peu plus d'anecdotes. Donc le livre est assez agréable à lire, mais à certains moments, il faut s'accrocher. Quoi.
Christian, ce voyage au nouveau pays de la pub.
Ça m'a surpris, comme Jean-Marc, compte tenu du fait que c'était quand même une dame qui a été responsable de la régie pub de France Télévisions. Moi, je m'attendais à ce qu'on nous dise comment on se négocie un contrat, combien ça coûte, pourquoi est-ce qu'une chaîne décide de passer telle pub et pas telle autre. Ouais. Rien de tout ça. C'est un livre qui de métadiscours. C'est un discours sur les discours sur la pub. Et donc, c'est quelquefois un petit peu, on sent la normalienne, on sait quelquefois, ou l'énarque, je ne sais pas, ou les deux, c'est quelquefois un petit peu aride. Donc on nous dit, oui, vous savez, la publicité avant, c'est vrai qu'il y a le avant et le après, avant c'était quand même mettre en avant moins les produits, alors au début les produits, puis après moins les produits que les entreprises, en occultant la façon dont ils sont produits, ça c'est vraiment pas, dont ils sont fabriqués, ça vient pas là. Et puis finalement, on évolue et arrive le monde des GAFA, mais juste avant, elle essaie quand même de défendre la publicité. Elle sait très bien qu'il y a des critiques. Hein. Oui, ça pousse à la surconsommation, ça pousse au gaspillage. Mais nous dit-elle, c'est quand même un reflet de la société et c'est une incarnation du bien et du beau. Alors là, j'avoue que j'ai lu l'argument, mais je l'ai pas compris. Pourquoi la pub aujourd'hui est une incarnation du bien et du beau? La partie la plus intéressante,
c'est
effectivement
c'est l'Amérique-Corée.
Oui, c'est un peu
de vie rêvée,
c'est
le rêve, de mon idéal.
Voilà, d'accord, oui. Ça c'est l'incarnation du beau chez vous.
Du bon.
Bon, voilà. Donc moi, je reste un petit peu sur ma fin, sur l'explication. La partie la plus intéressante, c'est effectivement de dire avec la numérisation, ça a complètement changé. Au lieu de cibler la ménagère de plus de 50 ans, on va cibler de manière beaucoup plus précise. Et on a chacun, j'ai trouvé l'expression heureuse, les GAFA ont construit de chacun de nous a double statistique. Et c'est vrai qu'on a un double statistique. Et là, elle nous dit, je trouve qu'elle ouvre une porte très intéressante en disant le fait de suivre les individus en suivant uniquement leurs traces numériques économiques, ça a un impact. D'abord, c'est pas nous, mais ça a un impact sur les individus. Et là, je dis, ah bon, quel impact? Ça passe par où? C'est quoi l'impact? Et là, malheureusement, le livre s'arrête là, ce qui est un peu dommage. Toute la fin du livre est pour nous dire, maintenant, qui fait la pub? C'est le consommateur. C'est nous qui disons, ça c'était bien, tel voyage était bien, tel hôtel était bien, tel livre était bien ou pas. Et en fait, les entreprises, maintenant, ce qu'elles mettent en avant, c'est leur valeur. On est responsable, on est près de chez vous, on est ceci, cela. Donc voilà, j'ai été surpris, un peu déçu d'avoir ce méta-discours, alors que je suis sûr que elle nous aurait raconté sa pratique, ça aurait été beaucoup plus passionnant.
C'est Ogilvy qui disait, je crois, la moitié des dépenses publicitaires ne servent à rien, mais on ne sait jamais laquelle.
Exactement.
Mais ça, justement, c'est de moins en moins. De moins en moins.
On est tous les deux d'accord, ça manque un peu de vécu et d'anecdotes.
Christian, est-ce qu'il y a un peu plus de vécu et d'anecdotes dans le livre que vous avez choisi, celui de Nicolas Forissier, L'ennemi intérieur, c'est chez Fayard?
Là, c'est du vécu, c'est de l'humain. Nicolas Forissier, c'est des personnages qui vont faire sortir ce qu'on appelle en France l'affaire UBS, la mise en évidence d'un système industriel de fraude fiscale organisé par la Banque Suisse et sa filiale française au cours du début des années 2000. Nicolas Forissier, au début, c'est un petit financier tout à fait banal. Il travaille à Paris-Bas, Luxembourg, sur la salle des marchés. Il va chez Audit, il va chez Arthur Andersen faire de l'audit. Il décrit son métier comme essentiellement devant traquer les petites anomalies pour pouvoir bien maquiller les grosses. Et puis, il passe dans une banque luxembourgeoise dont le patron est le fils de Raymond Barre. Et il tombe sur ce qui ne doit pas tomber, des petites magouilles. Et tel père, tel fils. Hein, parce qu'on se rappelle que Raymond Barre, après son décès, on a découvert qu'il avait un compte en Suisse avec près de 7 millions d'euros de dissimulés. Il est viré, bien évidemment, et le voilà qui arrive chez UBS. Il commence par trouver des petites choses pas très très agréables, mais à chaque fois, il va voir son patron. Le patron coupe les branches, dit on arrête tout ça et remet les choses dans l'ordre. Donc il dit UBS, franchement, la réputation de cette banque qui fraude, etc. Moi, ça se passera très bien. Jusqu'au moment où il va trouver des choses un petit peu plus compliquées, et là, par un ami de son père, il va se rapprocher des services secrets français et il va être en échange permanent avec les services secrets français. Il va leur dire là, j'ai des trucs bizarres. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors les services secrets français vont lui dire ça, tu laisses tomber. Ça, c'est pas important. Ça, c'est important, mais on préfère que tu fasses rien. Par contre, ça, regarde là et là. Évidemment, pour quelqu'un qui est responsable du contrôle interne, quand on lui dit où chercher, ça va beaucoup plus vite. Donc, il a des bons résultats. Et tout le monde est bien content jusqu'au moment où il va tomber sur ce quoi il ne doit pas tomber, à savoir la preuve du fait que des chargés d'affaires suisses viennent en France démarcher de manière totalement illégale les riches français pour leur permettre d'ouvrir un compte en Suisse et dissimuler une partie de leur argent. Donc, en fait, ça passe par UBS Bordeaux, UBS Strasbourg, par des petites filiales locales. Il va remonter petit à petit. Et quand au-dessus, on voit qu'il commence à regarder trop près, on commence à lui faire des ennuis. Alors qu'il dit, mon programme pour l'année prochaine, je vais auditer, enfin, je vais faire du contrôle interne sur la RH. Tout le monde dit, ouf, il n'est pas sur les commerciaux là où tout se passe. Et en fait, par la RH, il va reprendre tous les PV de gens qui se sont fait virer. Il va s'apercevoir que dans les PV pour au moment où ils sont éjectés de la banque, eh bien, il y a des gens qui ont aussi vu ça et qui ont dit on veut pas cautionner, qu'on leur donne un chèque, on leur dit tu te tais, et ils s'en vont. Petit à petit, donc il va mettre en œuvre, il va mettre au jour cette vraiment organisation industrielle de fraude fiscale. Ça va finir enfin, après plusieurs années, par déboucher. On passe sur toutes les pressions qu'il subit et ça. Au moment où Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, il y a deux branches des services secrets. Une qui continue à enquêter pour essayer de mettre au jour encore plus ce que fait UBS, et l'autre qui visiblement veut protéger de très grands noms. Aujourd'hui encore, on ne sait pas qui sont ces très grands noms, mais il y a eu une intervention d'une partie des services secrets pour essayer d'étouffer l'affaire. Il parle de Stéphanie Gibault, qui est l'autre grande lanceuse d'alerte qui va permettre d'arriver au procès, donc de la banque UBS. Vous pouvez aller lire les livres aussi de Stéphanie Gibault. Et finalement, 4 milliards et demi, UBS est condamné, 4 milliards et demi d'amende, ramené en appel à 1,8 milliard d'amende. On attend la cassation, mais en tout cas, c'est un livre humain de l'intérieur. Je vous passe les détails sur comment il a failli se prendre une balle dans la tête à cause des services secrets britanniques cette fois. Voilà. Et c'est un récit qui est palpitant, c'est que c'est comme un roman d'espionnage, un roman policier.
Et oui, c'est quand même un enquiquineur.
Oui, alors le livre est effectivement un roman.
Pour ses employeurs.
J'ai du mal à savoir si tout ce qu'il raconte est vrai, parce qu'il y a des choses qui sont invraisemblables. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vraies. Mais notamment ses rapports justement avec la police, avec les services secrets par l'intermédiaire de son père. Ça paraît assez curieux que les gens se comportent de cette façon. Au tout début, j'ai eu un doute parce qu'il raconte une anecdote. Son père était militaire à Berlin-Est. Et au moment dans les années 80, il dit, voilà, on est dans un restaurant et puis on voit par la fenêtre du restaurant un gamin qui est là, qui a faim et qui doit... Bon, ça, c'est tiré quasiment mot pour mot du retour du RSS d'André Gide. Et moi, j'ai connu bien Berlin-Est dans les années 80. Personne ne crevait de faim. C'était pas le régime idéal, mais personne ne crevait de faim. Et donc, il y a tout un tas de petites histoires comme ça qui me dérangent un peu. Donc, mais sur le fond, ce qui est passionnant, c'est effectivement, alors, c'est ce que l'auteur appelle les carnets du lait. C'est-à-dire, c'est une expression qui vient de la Suisse. UBS, par définition, c'est une banque suisse. Et donc, c'est une sorte de double comptabilité. Et il y a une comptabilité, comme les paysans tenaient une sorte de comptabilité sur le lait qu'ils livraient aux fromageries, qui était une comptabilité, un peu à côté de la l'activité fiscale. Et ce qu'il démontre aussi, c'est quand même il y a la fraude fiscale, mais au tout début, il part à l'assaut de ce qu'il appelle les comptes pourris, c'est-à-dire des comptes qui sont pas des comptes de Français qui cherchent à contourner le fisc, mais de véritables truands. Alors, les gens qui contournent le fisc aussi, c'est des truands, mais la pègre organisée, le grand gangstérisme. Et donc, effectivement, quand il s'agit de couper ces comptes pourris, sa hiérarchie n'y met pas trop d'opposition. Effectivement, elle voit bien que là, c'est allé trop loin. Sur les histoires fiscales, c'est déjà plus compliqué, et c'est là qu'on voit toute l'ambiguïté, effectivement, d'une situation où l'antenne française est dépassée, contournée par les carnets du lait et par l'antenne suisse. Alors, juste une dernière remarque pour conclure, quand il va à Bordeaux, il y a 2 pages à la gloire du vin de Bordeaux, donc rien que pour ça, je dis, il faut lire ce livre.
Mais vraiment, votre esprit partisan vous égare. Mon cher Jean-Marc, merci beaucoup à tous les deux. On retrouve tout de suite notre bibliothécaire Stéphanie Collot qui va nous faire découvrir la loi de Gregory King. Je l'ai bien prononcé cette
Absolument.
Fois-ci. Merci messieurs.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Bonjour Stéphanie, vous nous embarquez dans notre formidable machine à remonter le temps de la science économique. Et là, nous partons alors bien en arrière cette semaine, au XVIIe siècle exactement.
Oui, on va s'intéresser cette semaine à une théorie, la loi de King, du nom de son auteur, Gregory King. Il a élaboré cette loi dans un ouvrage publié en 1696, oui. Observations et conclusions naturelles et politiques sur l'état et la condition de l'Angleterre.
Alors, qui est Gregory King?
Alors, il est né en 1648, mort en 1712. Gregory King, c'est un haut fonctionnaire, c'est l'un des premiers grands statisticiens économiques du monde moderne. En 1695, il est chargé de la gestion des ressources économiques du royaume d'Angleterre, commissaire aux impôts. Il devient secrétaire à la commission des comptes publics et secrétaire du contrôle des comptes de l'armée. Et donc, il a accès à énormément de données. Il est l'auteur de plusieurs brochures. Il étudie notamment la population anglaise au XVIIe siècle et décrit les caractéristiques démographiques de cette population.
Alors, dans quel contexte il bâtit sa théorie?
Alors, en 1693 et 1694, une grande partie du royaume de France est touchée par une crise de subsistance. Elle est qualifiée de plus grande catastrophe démographique de tout le règne de Louis XIV. En cause, les mauvaises récoltes de 1692 et 1693. Les prix des céréales montent en flèche dès l'automne 1692 jusqu'à la bonne récolte de l'été 1694. Les cours reviennent alors à leur niveau normal. Mais fait fait étrange au même moment en Angleterre. Bien que les récoltes furent bonnes, eh bien, le cours du blé atteignit un sommet en 1693.
Alors, les prix du blé étaient déjà mondialisés à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Comment il explique ce phénomène?
Et ben c'est ce qui met en évidence Gregory King. Il met en évidence qu'une diminution de la récolte de blé entraîne une augmentation proportionnellement plus importante de son prix et un accroissement de la valeur de la récolte. Il calcule que quand l'offre de blé se contracte de 50%, les prix sont multipliés par 5,5. Autrement dit, une baisse de la moitié de l'approvisionnement de blé vient multiplier par plus de 5 le prix. L'insuffisance ou l'excès d'offre produit sur ces marchés des variations de prix beaucoup plus importantes que les variations des volumes constatés. Un déficit d'offres fait monter les prix en flèche et un excès d'offres provoque une chute des prix importante. Une théorie qui révèle finalement le caractère inélastique de la demande de blé. Peu importe la variation des prix, la demande restera inchangée parce que ce sont des produits de première nécessité. Une loi toujours d'actualité qui permet d'expliquer notamment la volatilité des prix des matières premières.
Et oui, et puis le fait que, c'est, quel que soit l'endroit où vous êtes, c'est les mêmes prix pour tout le monde. Merci beaucoup Stéphanie Collo. Allez, on retrouve notre globe-trotteur Benaouda Abdelhaim.
BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
Bonjour Benaouda.
Bonjour.
Allez Benaouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par une évaluation des dépenses chinoises de politique industrielle.
Oui, c'est dans une perspective comparative. C'est un travail effectué par des analystes d'un des plus importants centres d'études stratégiques de Washington, le CSIS, qui irrigue vraiment la réflexion des pouvoirs publics aux États-Unis et vice-versa, dirons-nous. Ce rapport, notamment, a été financé par le ministère américain des Affaires étrangères. Ceci posé, on a là des informations substantielles, croisées, mises en perspective, qui paraissent attester que la Chine subventionne son industrie en proportion de son produit intérieur brut bien plus qu'ailleurs dans le monde. Ouais. Investissement direct de l'État, crédit concessionnel, financement de la recherche-développement, taxation préférentielle, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. D'après leurs calculs, au taux de change de marché en 2019, l'État chinois a soutenu ainsi les entreprises chinoises à hauteur de 248 milliards de dollars, soit 1,73% de la richesse nationale de cette année-là. En comparaison avec les 7 autres économies étudiées, analysées, c'est nettement au-dessus. La suivante, c'est la Corée du Sud, qui est à 0,67%. Vient ensuite la France, troisième, 0,55% du PIB. Ou par rapport aux autres, l'appui est vraiment très marqué pour la R&D. L'Allemagne, quant à elle, arrive ensuite à 0,41%. Et à en croire ce rapport du CSIS, les États-Unis ne seraient qu'à 0,39%, ce qui représente toutefois 84 milliards de dollars. 84 milliards de dollars en cumulé, c'est davantage que les montants des subventions de la France, de l'Allemagne, du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan, etc. Les auteurs américains considèrent que c'est le caractère étatique, éminemment étatique du système financier et bancaire chinois qui permet à Pékin de continuer à pouvoir orienter le plus précisément, avec le plus de force, ses subventions industrielles parmi toutes ces économies étudiées. Un immense maillage de fonds d'investissement sous le contrôle de l'État opère ce travail de subvention vers les industries jugées, considérées comme celles qui ont le plus d'avenir. On a dans ce document une décomposition aussi précise que possible, étant donné la disponibilité des sources ouvertes, qui réclament beaucoup plus de transparence. Gérard Di Pipo et ses collègues jugent qu'un phénomène spécifiquement chinois persiste. L'éviction du capital privé en matière de choix industriels qui fausserait donc le marché. Ils écrivent en conclusion, la prochaine étape consiste pour les décideurs politiques, sous-entendu américains et européens, en dehors de Chine, à déterminer la meilleure façon d'utiliser nos nouvelles informations.
On s'intéresse au recyclage à faible empreinte carbone du plastique PET post-consommation. Mesdames.
Oui, alors c'est un travail qui a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre de différents projets scientifiques et par le ministère allemand de la Recherche, peut-être un lien avec notre précédent sujet. Alors c'est la science fondamentale qui en passe potentiellement de résoudre un problème industriel et écologique de dimension planétaire. C'est une équipe de l'Université de Leipzig en Allemagne, à laquelle sont notamment associés des universitaires de Santiago du Chili, qui rapportent avoir trouvé une nouvelle enzyme en mesure mesure de dévorer le plastique. Une enzyme, c'est, pour rappel, une protéine qui facilite une réaction chimique. Ouais. Alors, dans cette étude publiée par une revue académique allemande de premier plan de chimie, Christian Sonnendecker et ses collègues commencent par établir d'abord l'immense écart entre la production mondiale de plastique PET et la fraction minime qui est recyclée, avec les effets néfastes désormais connus et très bien connus. Leur découverte procède d'une simple fouille dans une décharge de Leipzig près d'un cimetière.
Ah oui.
C'est vous dire qu'il ne faut pas chercher bien loin parfois. Et alors, grande surprise, ils ont identifié ce qu'ils appellent là le polyester hydrolase, PHL7, qui est en mesure de décomposer, en laboratoire en tout cas, une surface de plastique très rapidement. Alors, ils constatent sur une durée d'une heure seulement un taux de dégradation particulièrement élevé par rapport au LCC. LCC, c'est l'enzyme couramment utilisée à cet effet, qui a été découverte au Japon en 2012. Et avec le PHL7, on est à 4 fois supérieur, enfin une vitesse de dégradation 4 fois supérieure sur une bouteille. D'accord. En plastique. Ce recyclage efficace et donc accéléré, a priori biologique, biodégradable, pourrait ainsi ouvrir la voie à une nouvelle forme d'industrie du plastique à l'échelle mondiale, si tant est que des industriels en place estiment que ce travail académique représente véritablement une avancée décisive par rapport aux précédentes découvertes dans ce domaine.
Et ouais, passionnant. Sans transition, Belaouda, on s'intéresse à la réincorporation des anciens combattants des FARC. On est en Colombie.
Oui, dimanche dernier, au premier tour de l'élection présidentielle en Colombie, c'est un sénateur de gauche qui est arrivé en tête au premier tour, 40% des suffrages. Il s'appelle Gustavo Petro, c'est un ancien du M19. Le M19, c'est un mouvement de guérilla démobilisé en 1990. C'est un ancien militant national marxiste qui est allé vers la social-démocratie. Et il n'est pas acquis que le sénateur Petro, toutefois, l'emporte au second tour. Mais cela dit quand même beaucoup de cette évolution dans un État qui maintenant fait partie de l'OCDE, le club des économies industrielles avancées. Alors, pour nourrir cette réflexion sur cette évolution, on peut se référer à ce document établi par la fondation Idées pour la Paix, qui est basée à Bogota, qui a effectué un travail très précis sur ce que deviennent les anciens des FARC, Force Armée Révolutionnaire de Colombie, qui a été la plus importante mouvance de guérilla communiste du pays. Alors, ils sont un peu plus de 13 000 censés avoir été intégrés au sein d'un programme public de réinsertion dans la vie civile, appelé programme de réincorporation sociale et économique, ce qui donne droit d'abord à une allocation équivalente en gros à 90% du salaire minimum. Mais il y a aussi un certain nombre qui se sont lancés de ces anciens combattants dans des projets dits productifs, avec le soutien de l'État. Mmh. Il y a 360 projets individuels, 29 collectifs. On relève aussi que des bénéficiaires ont aussi été financé par la coopération internationale. Ça représente donc un nombre substantiel de créations d'entreprises par ces anciens combattants. D'accord. Marxistes-léninistes, dont il faut encore voir quelle sera quand même la pérennité. Les auteurs donnent aussi des pistes afin de renforcer ce processus de création d'entreprises, de création de richesses. Juan Carlos Garzón et ses collègues estiment qu'il faut consolider l'accès aux terres, à la formation professionnelle, au crédit, aux infrastructures, et tout en les accompagnant, et s'assurer que leurs initiatives soient en concordance avec la réalité du marché, je cite, dans les territoires où ils se trouvent. Et pour cela, ça suppose les relier au tissu économique avec les organisations syndicales, les organisations patronales. Il faudra voir ce que ça fera de tout ceci le prochain pouvoir qui va être élu prochainement.
Ouais, expérience passionnante. En tout cas, merci beaucoup, Belaouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Un rapport fascinant et complètement effrayant de Margaret Hodge, qui est une députée britannique, qui montre comment la City de Londres, avocat, banquier, financier, etc., a commencé par aider à l'évasion fiscale, interpréter la loi pour payer un peu moins d'impôts, comment on est passé de l'évasion fiscale à la fraude fiscale, de la fraude fiscale au crime économique. Londres est aujourd'hui une des principales places mondiales de blanchiment d'argent sale, notamment pour les oligarques russes, mais pas seulement, et comment on est passé du crime économique à la corruption de la vie politique. Comment ce spectre s'étale petit à petit. Elle dit, c'est une députée travailliste, elle dit il y a des dirigeants travaillistes qui ont pu bien sûr y participer, mais aujourd'hui elle met en avant des histoires qui sont liées à Boris Johnson, qui sont liées au Parti conservateur, qui font vraiment froid dans le dos. Une société britannique, une vie politique britannique complètement corrompue, ça va pas très très bien du côté de chez nos amis outre-Manche.
Passionnant. Jean-Marc Daniel ?
Eh bien, moi, j'ai choisi le dernier numéro de la revue Futurible. C'est une revue tout à fait estimable qui existe depuis un certain temps déjà. Et donc, ce numéro consacré à la transition écologique.
Comme presque tous les autres. enfin, comme un sur deux, au moins.
Oui, oui, absolument. Mais alors, c'est une façon d'aborder les choses de façon relativement modérée. Donc, on apprend des choses. Et puis, il y a un numéro, il y a un article qui passe en revue les budgets de défense de des pays, des principaux pays de l'Union européenne et des pays environnants. Et ça, c'est des données qu'on n'a pas forcément spontanément. Donc, c'est une revue qu'il faut se procurer.
Merci Jean-Marc. Bah tiens, des données qu'on n'a pas non plus spontanément. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à l'investissement dans le vin. Alors, investissement que vous pouvez faire sans modération pour le coup. Et donc, je vous recommande, ça vient de sortir, le baromètre des enchères en 2021 avec les prévisions 2022. C'est fait par Ideal Wine. Alors, ça coûte un peu cher, hein, 95 euros. Mais bon, vous avez toutes les codes de tous les domaines qui montent si vous voulez investir dans le vin. C'est vraiment une somme qu'il faut vous procurer. La même chose existe aussi pour les spiritueux. Tiens, vous savez, messieurs, les records d'enchères en 2021, la bouteille la plus chère de vin vendue, Jean-Marc, c'est un Musigny 2006 du domaine Leroy. Vous savez combien ?
Non.
28 244 euros. Voilà. Et le spiritueux le plus cher, c'est un whisky japonais, Karuizawa de 29 ans, 17 936 euros. Vous voyez, on peut gagner aussi de l'argent en investissant dans le vin et les alcools. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.